France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, c'est le 23e épisode, les années 50, Carmen Miranda, Maria Callas et les prémices de la bossa nova. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos pérégrinations américaines. Ce nouvel épisode brésilien commence en réalité en Californie où dans les années 1950, la chanteuse et actrice brésilienne Carmen Miranda continue à tourner de nombreux films. Au Brésil, on la critique beaucoup pour avoir quitté son pays durant si longtemps et pour donner au monde une image un peu trop hollywoodienne du Brésil. Mais malgré cette campagne nationaliste peu sympathique, elle peut toujours compter sur ses nombreux admirateurs tant dans son pays que dans le monde entier. Elle vient d'avoir 41 ans, sa voix et sa présence en scène font toujours merveille. Elle tourne en 1950 « Nancy Goes to Rio », intitulé en France « Voyage à Rio », dans lequel elle se lance dans un baião effréné, le baião qui est alors la danse à la mode au Brésil. C'est une scène inspirée des carnavals du nord-est brésilien dans laquelle un danseur brandit des ombrelles multicolores comme dans les défilés de Recife au Pernambouc.
When you were out in the street, out in the tropical heat, you'll fall in love with the song, with the wonderful beat.
Ka-ka-krum-pa-pa.
Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-ta.
Ka-ka-krum-pa-pa.
Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-ta. It's got the kind of a feel that turns your head like a wheel, and what a wonderful feeling, that feeling you feel.
Ka-ka-krum-pa-pa.
Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-ta. Ka-ka-krum-pa-pa. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-ta. Your heart will beat like a bongo, just like it's beating in mine. The heat of the sun may be 101, but you'll make it 109. And there is more to a yet. I'm gonna bet you a bet that you can pack up and go, but you'll never forget.
Ka ka krum pa pa, tiki 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 ta. Ka ka krum pa pa, tiki 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 ta.
Ka ka krum pa pa, tiki 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 ta. Many shades and many types, polka dots and yellow stripes, have to keep you on your feet, shade you from the tropic heat. Everybody's got one, got one, got one. Everybody's got one but me.
Ces années-là, Carmen Miranda demeure la grande ambassadrice culturelle de son pays à travers le monde, comme en avril 1953, quand à la fin du tournage de son dernier film aux États-Unis, elle entreprend une tournée européenne de 4 mois. Elle revient épuisée de ce voyage et lors d'un spectacle à Cincinnati, elle est victime d'un malaise et elle est hospitalisée. Elle tombe alors dans une telle dépression qu'elle part en décembre 1954 se reposer au Brésil, où elle est chaleureusement accueillie. De retour aux États-Unis, elle est sur scène à Las Vegas en avril 1955, puis elle rejoint la Havane en juin et juillet, où c'est du délire dans la salle. Mais sa santé décline et elle rentre plus tôt que prévu à Los Angeles. Le 4 août, Carmen Miranda participe à l'enregistrement d'un spectacle musical télévisé lorsqu'elle se sent à court de souffle à la fin de sa prestation. Lors de la fête, organisée ensuite à son domicile, elle fait une crise cardiaque et meurt au petit matin. Son corps est rapatrié à Rio de Janeiro, où le gouvernement brésilien déclare une période de deuil national. Plus d'un demi-million de Brésiliens escortent le cortège funèbre jusqu'au cimetière de São João Baptiste. Ce sont les musiciens de la bossa nova, et surtout ceux du tropicalisme, comme Caetano Veloso, qui la réhabiliteront à la fin des années 1960 en revendiquant son héritage. Un musée qui lui est consacré est inauguré à Rio de Janeiro en 1976. Oh, mon petit polichinelle que j'ai gagné quand j'étais enfant, tu as toujours été à mes côtés pour me donner du courage. Une des rares chansons de Carmen Miranda où elle évoque la nostalgie de l'enfance perdue à jamais.
Polichinelo, meu polichinelo, que eu ganhei num certo dia que o tempo levou. És a lembrança da felicidade que alguém só por maldade me proporcionou. Tu representas um papel na vida da minha dança querida que não volta mais. Tu és a causa deste meu grande tormento, tu és o próprio alento dos meus tristes ais. Poli, poli, polichinelo, meu polichinelo, que eu ganhei num certo dia que o tempo levou. Essa lembrança da felicidade que alguém só por maldade me proporcionou. Fica representando um papel na vida da minha dança querida que não volta mais. Tu és a causa deste meu grande tormento, tu és o próprio alento dos meus tristes ais. Polichinelo, meu polichinelo, que eu ganhei num certo dia que o tempo levou. És a lembrança da felicidade que alguém só por maldade me proporcionou. Representas um papel na vida da minha dança querida que não volta mais. Tu és a causa deste meu grande tormento, tu és o próprio alento dos meus tristes ais.
Roberto Duarte à la tête de l'Orchestre symphonique de la Radio Slovaque dans la première partie du poème symphonique « L'aube dans la forêt tropicale » que Villa-Lobos compose aux États-Unis. Villa-Lobos, l'autre grand ambassadeur de la musique brésilienne dans le monde. En 1953, il vit entre son pays, Paris et New York. C'est l'orchestre de Louisville aux États-Unis qui lui a commandé cette nouvelle œuvre. Dans cette aube, dans la forêt vierge, Villa-Lobos s'immerge à nouveau dans la nature exubérante du Brésil, où les oiseaux de la selva se mêlent à des apparitions d'êtres fantastiques, légendaires et de chants indiens. Lors de la création à Louisville, c'est un nouveau triomphe pour le compositeur brésilien aux États-Unis. L'aube dans la forêt tropicale de Villa-Lobos, Roberto Duarte à la tête de l'orchestre symphonique de la radio slovaque. Quant à la musique populaire brésilienne aux États-Unis, eh bien c'est toujours le compositeur Ary Barroso qui est le plus fêté. Il y a fait connaître plusieurs musiques inspirées du nord-est de son pays. Sauf, curieusement, la danse du baião, qui est pourtant tellement à la mode au Brésil. Ce baião a bien du mal à y faire son chemin, même après le succès de Carmen Miranda dans son film de 1950. Or, voilà qu'à la fin des années 1940 et au début de ces années 1950, un jeune pianiste de jazz de 35 ans, Stan Kenton, californien établi à New York, se passionne pour la musique latino-américaine, surtout la musique cubaine, et il sera un des pionniers de ce qu'on a appelé le Latin Jazz à Manhattan. En 1947, il découvre un guitariste brésilien exceptionnel, originaire de São Paulo, Laurindo Almeida, admirateur de Stéphane Grappelli à Paris et qui vient de s'établir cette année-là à Los Angeles. quand Stan Kenton l'entend jouer son Brazilians, un hommage au Brésil très jazzy qui est resté légendaire, il l'engage aussitôt dans son orchestre. Brazilians annonce déjà ce qu'on appellera au Brésil la bossa nova. Laurindo Almeida va rester avec Stan Kenton jusqu'en 1952 et il donnera la couleur brésilienne au jazz du pianiste, comme dans ce lamento composé par l'arrangeur du groupe, l'excellent Pete Rugolo, fan de jazz, de Stravinsky et de Béla Bartok. Stan Kenton est très connu au Brésil ces années-là et il a même son fan club à Rio. Avec lui, un vent musical nouveau venu des États-Unis atteint bientôt les côtes brésiliennes. Thank you. Le guitariste Laurindo Almeida aux États-Unis, comme João Gilberto à Rio de Janeiro à la même époque, joue souvent des baiones brésiliens. Il va inspirer à son tour le saxophoniste américain Bud Shank, qui joue avec lui dans une boîte de jazz de Hollywood. En 1953, tous les deux créent ainsi le premier baïan jazz avec ce titre évocateur « The Blue Baïan ». Encore deux pionniers de la future bossa nova. Leur disque, inspiré par la musique brésilienne, intitulé à nouveau « Brazilians », est au top des ventes. C'est avec ce baião made in the United States que nous revenons au Brésil, où Stan Kenton et Laurindo Almeida ont fait des émules, comme le pianiste métis Johnny Alf et son guitariste Garoto, qui enregistrent leur premier disque en 1953, avec deux mélodies qu'on considère elles aussi comme de la bossa nova avant l'heure, ce qui veut simplement dire que cette nouvelle vague musicale brésilienne a eu une gestation bien plus ancienne qu'on l'imagine. Nous sommes ici à Rio de Janeiro, dans la boîte de nuit de l'hôtel Plaza à Copacabana, ambiance chic et très enfumée garantie.
Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
C'est ainsi un véritable renouveau que va vivre bientôt la musique populaire au Brésil. Quant à la musique de concert, elle est toujours aussi dynamique dans les années 50 et le niveau est souvent exceptionnel. À commencer par les saisons d'opéra dans ce beau théâtre municipal construit sur le modèle du Palais Garnier de Paris. Ces années-là marquent notamment les débuts fracassants en Amérique latine de deux grandes sopranos en début de carrière, Renata Tebaldi et Maria Callas. Maria Callas avait ouvert le feu en Argentine en mai et juin 1949 dans Turandot, Aïda et Norma au Théâtre Colonne. Et Renata Tebaldi y a fait ses débuts 4 ans plus tard. En août et en septembre 1951, elles sont toutes les deux sur la scène du théâtre municipal de Rio de Janeiro. Et c'est évidemment l'événement de la saison lyrique. Cette année-là, Maria Callas arrive de Mexico, où elle a fait un triomphe inouï le 3 juillet, dans le rôle d'Aïda au Palacio de Bellas Artes. En août et en septembre à Rio, elle chante la Norma, puis en alternance avec Tebaldi, la Traviata et Tosca. Elle a alors 28 ans, et l'enregistrement réalisé à Mexico nous donne une idée de ce que les Brésiliens ont pu entendre cette année-là au théâtre municipal de Rio. Voici donc Maria Callas à Mexico le 3 juillet 1951, dans l'acte 2 d'Aïda, avec la mezzo-soprano mexicaine Auralia Dominguez, dans l'ensemble final qu'elle achève par un mi bémol éclatant qui déclenche le délire dans la salle. Le triomphe d'Aïda enregistré sur le vif à Mexico en 1951, Maria Callas dans le rôle de titre, la mezzo-mexicaine Auralia Dominguez, aux côtés de Mario del Monaco et de Giuseppe Taddei, le chœur et l'orchestre du Palacio de Bellas Artes de la ville de Mexico, dirigé par Oliviero de Fabritis. En 1952, autre événement très émouvant, ce sont les adieux du chef d'orchestre Erich Kleiber à l'Amérique du Sud, où il a vécu en exil durant de nombreuses années. Il est alors directeur musical au Covent Garden de Londres, d'où il arrive pour diriger plusieurs concerts à Rio et à São Paulo, avant de retrouver ce qui est son deuxième pays, l'Argentine, où il est à la tête de l'orchestre du théâtre Colón pour la dernière fois. Il y retrouve son fils, Carlos, qui a 22 ans, qui vit à Buenos Aires, où il dirige un orchestre pour la première fois. C'est en 1954 qu'Erich Kleiber dit adieu à l'Amérique latine dans son ensemble. Quand il est à la tête de son cher orchestre philharmonique de la Havane, les 22 et 24 janvier 1954, et ensuite, quand il fait partie en novembre de cette même année, du jury du premier festival de musique latino-américaine de Caracas au Venezuela, auprès de ses amis Aitor Villalobos, Juan José Castro et Carlos Chávez. Un grand festival auquel Erich Kleiber promet de participer à nouveau. Mais hélas, il décède en Suisse, à Zurich, le 27 janvier 1957. Il nous reste heureusement un beau témoignage de lui dirigeant une œuvre latino-américaine, en l'occurrence le ballet Panambi du compositeur argentin Alberto Ginastera. C'était lors d'un concert dans le studio de la NBC à New York en 1948.
Thank you.
Erich Kleiber dirigeait ici le NBC Orchestra de New York dans la Lamentation des jeunes filles et la Danse des guerriers du ballet Panambi d'Alberto Ginastera. Parmi les autres grands événements artistiques à Rio, c'est d'abord le séjour en 1954 du compositeur allemand Paul Hindemith qui vient diriger ses œuvres. Il arrive de New York où il enseigne à la Juilliard School avant d'intégrer l'université de Yale. Hindemith est suivi par deux grands chefs, Igor Markevitch et Leonard Bernstein, qui a alors 35 ans. Au théâtre municipal se succèdent aussi de très grands pianistes, notamment Wilhelm Kempf, Walter Gieseking et Friedrich Gulda. Et la France au Brésil? Eh bien, en 1951, c'est la première fois que Maurice Chevalier se présente dans le pays. Suivent les récitals de Christian Ferras et Pierre Barbizet et de Gérard Souzet et d'Alton Baldwin. En mai 1954, la compagnie de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault est de retour, avec toujours Pierre Boulez comme directeur musical, et cette fois, c'est Jean Anouilh qui est à l'affiche. Puis le théâtre municipal accueille le Piccolo Teatro de Milan et la compagnie dramatique nationale brésilienne avec le plus important dramaturge du pays, Nelson Rodriguez. En 1955, c'est un artiste brésilien très populaire qui décède, le compositeur Jaime Ovalle. Depuis des années, il vivait entre New York et Londres comme fonctionnaire au service du ministère des Affaires étrangères. Mais le peuple brésilien le connaissait surtout par l'une de ses plus belles chansons, « O Azulão », ce superbe oiseau de sertão brésilien au plumage bleu et noir. « Mon Azulão, va dire à ma bien-aimée que sans elle, le sertão n'existe plus pour moi. » Il aura suffi de cette toute petite chanson pour que tout le pays porte le deuil de son auteur. Le magnifique Azulão de Jaime Ovalle par Isabelle Bayragdarian, soprano et The Cello Ensemble. En 1954 est créé à Haïfa, en Israël, l'Odyssée d'une race, que Villa-Lobos avait composé pour célébrer la naissance du pays. Puis c'est aux États-Unis qu'est créé, à Ann Arbor, à l'ouest de Détroit, dans le cadre de l'Université du Michigan, son 14e quatuor, une commande du Stanley Quartet. Dans ces derniers quatuors, l'écriture de Villa-Lobos est plus épurée et le mouvement lent est ici encore une fois un moment de grande intensité et de belle émotion.
«
Deuxième mouvement du 14e quatuor de Villa-Lobos par le Quartetto Latino-Americano. En janvier 1955, Villa-Lobos est de nouveau aux États-Unis. Le New York Times l'accueille avec un bel article daté du 31 janvier. La semaine dernière, un demi-siècle après sa première excursion dans la jungle et toujours un voyageur impénitent, le compositeur Aitor Villa-Lobos a été invité par l'orchestre de Philadelphie pour venir diriger le 15 janvier deux de ses dernières compositions, la symphonie numéro 8 de 1950 et son concerto pour harpe et orchestre. Villa-Lobos respire ces temps-ci l'air des villes de l'hémisphère nord et il le respire à fond. Durant le week-end, entre deux concerts, il compose avec rage et il en est à la moitié de sa 7e symphonie. Le claveciniste colombien Rafael Puyama, qui habitait alors le même immeuble que le guitariste Andrés Segovia et la soprano Olga Coelho à New York, l'a rencontré.
Bien sûr, j'ai connu Villa-Lobos. Je vous raconterai une histoire en français. Olga Coelho, qui était une cantatrice brésilienne qui vivait avec Segovia, était très amie de Villa-Lobos et sa femme. C'était la femme de Villa-Lobos, c'était une dame très charmante qui s'appelait Arminda. Et alors il habitait Villa-Lobos à l'hôtel Drake à New York. On m'a invité pour me présenter Villa-Lobos. Et je rentre avec Olga Coelho. Et il y avait comme une espèce d'entrée là, avant le salon où je trouvais. Et puis j'entre et qu'est-ce que j'entends? Un brouhaha. Des gens qui parlaient à voix haute et tout ça, beaucoup de bruit, des Brésiliens. Il y avait toute une quantité de Brésiliens qui étaient là. Et j'ai demandé timidement à Olga, mais Villa-Lobos, où est-il dans tout ça? Et là, elle est rentrée donc au salon, elle m'a dit, ah voilà, et il est là-bas. Et il était assis sur une table, et il était en train de composer un quatuor à cordes, vous vous rendez compte? Dans ce bruit, et aussi deux enfants, je ne sais pas si c'était ses enfants ou ceux de sa femme, en tout cas deux enfants qui couraient et qui jouaient avec des pistoles, et c'est là que j'ai connu Villa-Lobos. Mais je n'ai pas pu apprécier vraiment la personnalité, puisque tout ça se passait en portugais. D'autre part, tout ce monde brésilien était une chose très spéciale pour vous dire de pouvoir se concentrer à écrire un quatuor à cour pendant qu'il y a 30 personnes qui font du bruit dans le même local. Ça, c'est pas croyable. Je vous le jure, c'est vrai.
Le scherzo du 15e quatuor de Villa-Lobos, créé en 1955 et interprété ici par le Quartetto Latino-Americano. Cette année-là aussi, Villa-Lobos et son grand ami Harry Barroso sont décorés au Brésil de l'Ordre du Mérite. Harry composait des sambas, on le sait, mais depuis longtemps, il commentait aussi en direct les matchs de foot à la radio. En 1995, il intervient à présent sur la télévision, Tupi. Il aime de plus en plus la chanteuse Elisete Cardoso, qui enregistre en 1954 sa samba canção, très inspirée du boléro caraïbe qui s'intitule « Ocultei ». Je t'ai caché que j'avais pensé à la mort quand j'ai eu peur de ce qui pourrait arriver au grand amour que j'ai pour toi.
Ocultei un sofrimento de morte. Temendo a sorte do grande amor que te dei, procurei não perturbar nossa vida, que era florida como a princípio sonhei. Hoje, porém, abri as portas do destino mandei andar o amor um mero clandestino. Episódio funesto, agora detesto aquele a quem tanto amei. O meu mais ardente desejo, que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo.
Elisete Cardoso dans cette samba canção d'Harry Barroso. En 1955, Villa-Lobos vient de terminer son deuxième concerto pour violoncelle et orchestre, une commande du violoncelliste Aldo Parisot, qui crée l'œuvre avec l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Walter Händel le 5 février. Aldo Parisotto était né au Brésil, il avait alors 37 ans. Son interprétation du double concerto de Brahms à Rio avait attiré l'attention du musicologue Carlton Sprague Smith, attaché à l'ambassade des États-Unis à Rio, qui lui avait procuré aussitôt une bourse pour étudier à l'université de Yale, où il a eu Pauline de Mitte comme professeur jusqu'en 1953. Par la suite, Aldo Parisotto allait enseigner le violoncelle lui aussi à Yale, de 1958 jusqu'à 2018, l'année de son décès. Et c'est sur cette musique que nous nous quittons aujourd'hui. On se dit au revoir avec le deuxième mouvement du concerto pour violoncelle et orchestre numéro 2 de Villa-Lobos, Aldo Parisotto avec l'orchestre de l'Opéra de Vienne dirigé par Gustav Mahler. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Stéphane Desmonts, attaché de production Nelly Portal, une émission que l'on peut bien sûr écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.